Lettre 136. Rika au même. Dans l'entrevue suivante, mon savant me mena dans un cabinet particulier. « Voici les livres d'histoire moderne, » me dit-il. « Voyez premièrement les histoires de l'Église et des papes, livres que je lis pour m'édifier, et qui font en moi souvent un effet tout contraire. Là, ce sont ceux qui ont écrit de la décadence du formidable empire romain, qui s'était formé du débris de tant de monarchies, et sur la chute duquel il s'en forma aussi tant de nouvelles. Un nombre infini de peuples barbares, aussi inconnus que les pays qu'ils habitaient, parurent tout à coup, l'inondèrent, le ravagèrent, le dépecèrent, et fondèrent tous les royaumes que vous voyez à présent en Europe. Ces peuples n'étaient pas point proprement barbares, puisqu'ils étaient libres, mais ils le sont devenus depuis que, soumis pour la plupart à une puissance absolue, ils ont perdu cette douce liberté si conforme à la raison, à l'humanité et à la nature. Vous voyez ici les historiens de l'Empire d'Allemagne, qui n'est qu'une ombre du Premier Empire, mais qui est, je crois, la seule puissance qui soit sur la terre que la division n'a point affaiblie. La seule, je crois encore, qui se fortifie à mesure de ses pertes, et qui, lente à profiter des succès, devient indomptable par ses défaites. Voici les historiens de France, où l'on voit d'abord la puissance des rois se former, mourir deux fois, renaître de même, languir ensuite pendant plusieurs siècles. Mais prenant insensiblement des forces, accrues de toutes parts, monter à sa dernière période. Semblable à ces fleuves qui, dans leur course, perdent leurs eaux ou se cachent sous terre, puis, reparaissant de nouveau, grossis par les rivières qui s'y jettent, entraînent avec rapidité tout ce qui s'oppose à leur passage. Là, vous voyez la nation espagnole sortir de quelques montagnes. Les princes mahométans subjugués aussi insensiblement qu'ils avaient rapidement conquis. Tant de royaumes réunis dans une vaste monarchie qui devint presque la seule, jusqu'à ce qu'accablée de sa propre grandeur et de sa fausse opulence, elle perdit sa force et sa réputation même, et ne conserva que l'orgueil de sa première puissance. Ce sont ici les historiens d'Angleterre, où l'on voit la liberté sortir sans cesse des feux de la discorde et de la sédition. Le prince, toujours chancelant sur un trône inébranlable, une nation impatiente, sage dans sa fureur même, et qui, maîtresse de la mer, chose inouïe jusqu'alors, mêle le commerce avec l'Empire. Tout près de là sont les historiens de cette autre reine de la mer, la République de Hollande, si respectée en Europe et si formidable en Asie, où ces négociants voient tant de rois prosternés devant eux. Les historiens d'Italie vous représentent une nation autrefois maîtresse du monde, aujourd'hui esclave de toutes les autres. Ces princes, divisés et faibles, et sans autre attribut de souveraineté qu'une vaine politique. Voilà les historiens des républiques, de la Suisse, qui est l'image de la liberté, de Venise, qui n'a de ressources qu'en son économie, et de Gênes, qui n'est superbe que par ses bâtiments. Voici ceux du Nord, et entre autres de la Pologne, qui use si mal de sa liberté et du droit qu'elle a d'élire ses rois, qu'il semble qu'elle veuille consoler par là les peuples ses voisins qui ont perdu l'un et l'autre. Là-dessus nous nous séparâmes jusqu'au lendemain. De Paris, le 2 de la lune de Chalval, 1719. Lettre 137. Rika au même. Le lendemain, il me mena dans un autre cabinet. « Ce sont ici les poètes, » me dit-il, « c'est-à-dire ces auteurs dont le métier est de mettre des entraves au bon sens et d'accabler la raison sous les agréments. Comme on ensevelissait autrefois les femmes sous leurs ornements et leurs parures. Vous les connaissez. Ils ne sont pas rares chez les Orientaux, où le soleil plus ardent semble échauffer les imaginations même. Voilà les poèmes épiques. Hé, qu'est-ce que les poèmes épiques ?
En vérité, me dit-il, je n'en sais rien. Les connaisseurs disent qu'on n'en a jamais fait que deux, et que les autres qu'on donne sous ce nom ne le sont point. C'est aussi ce que je ne sais pas. Ils disent de plus qu'il est impossible d'en faire de nouveaux, et cela est encore plus surprenant. Voici les poètes dramatiques, qui, selon moi, sont les poètes par excellence et les maîtres des passions. Il y en a de deux sortes, les comiques, qui nous remuent si doucement, et les tragiques, qui nous troublent et nous agitent avec tant de violence. Voici les lyriques, que je méprise autant que j'estime les autres, et qui font de leur art une harmonieuse extravagance. On voit ensuite les auteurs des idylles et des églogues, qui plaisent même aux gens de cour par l'idée qu'ils leur donnent d'une certaine tranquillité qu'ils n'ont pas, et qu'ils leur montrent dans la condition des bergers. De tous les auteurs que nous avons vus, voici les plus dangereux. Ce sont ceux qui aiguisent les épigrammes, qui sont de petites flèches déliées, qui font une plaie profonde et inaccessible aux remèdes. Vous voyez ici les romans, dont les auteurs sont des espèces de poètes, et qui, outre également le langage de l'esprit et celui du cœur, ils passent leur vie à chercher la nature, et la manquent toujours, et leurs héros y sont aussi étrangers que les dragons ailés et les hippocentaures. « J'ai vu, lui dis-je, quelques-uns de vos romans, et si vous voyez les nôtres, vous en seriez encore plus choqués. Ils sont aussi peu naturels, et d'ailleurs extrêmement gênés par nos mœurs. » Il faut 10 années de passion avant qu'un amant ait pu voir seulement le visage de sa maîtresse. Cependant, les auteurs sont forcés de faire passer les lecteurs dans ces ennuyeux préliminaires. Or, il est impossible que les incidents soient variés. On a recours à un artifice pire que le mal même qu'on veut guérir. C'est au prodige. Je suis sûr que vous ne trouverez pas bon qu'une magicienne fasse sortir une armée de 2 sous terre, qu'un héros lui seul en détruise une de 100 000 hommes. Cependant, voilà nos romans. Ces aventures froides et souvent répétées nous font languir, et ces prodiges extravagants nous révoltent. De Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1719. Lettre 138. Rica à Ibben, à Smyrne. Les ministres se succèdent et se détruisent ici comme les saisons. Depuis 3 ans, j'ai vu changer 4 fois de système sur les finances. On lève aujourd'hui les tributs, en Turquie et en Perse, comme les levaient les fondateurs de ces empires. Il s'en faut bien qu'il en soit ici de même. Il est vrai que nous n'y mettons pas tant d'esprit que les Occidentaux. Nous croyons qu'il n'y a pas plus de différence entre l'administration des revenus du prince et celle des biens d'un particulier. Qu'il y en a entre compter 100 000 tomans ou en compter 100. Mais il y a ici bien plus de finesse et de mystère. Il faut que de grands génies travaillent nuit et jour, qu'ils enfantent sans cesse et avec douleur de nouveaux projets, qu'ils écoutent les avis d'une infinité de gens qui travaillent pour eux sans en être priés, qu'ils se retirent et vivent dans le fond d'un cabinet impénétrable aux grands et sacré aux petits, qu'ils aient toujours la tête remplie de secrets importants, de desseins miraculeux, de systèmes nouveaux, et qu'absorbés dans les méditations, ils soient privés de l'usage de la parole, et quelquefois même de celui de la politesse. Dès que le feu roi eut fermé les yeux, on pensa à établir une nouvelle administration. On sentait qu'on était mal, mais on ne savait comment faire pour être mieux. On ne s'était pas bien trouvé de l'autorité sans bornes des ministres précédents, on l'a voulu partager. On créa, pour cet effet, 6 ou 7 conseils. Et ce ministère est peut-être celui de tous qui a gouverné la France avec plus de sens. La durée en fut courte, aussi bien que celle du bien qu'il produisit. La France, à la mort du feu roi, était encore accablée de 1000 maux. Haine prit le fer à la main, retrancha les chairs inutiles et appliqua quelques remèdes topiques. Mais il restait toujours un vice intérieur à guérir. Un étranger est venu qui a entrepris cette cure. Après bien des remèdes violents, il a cru lui avoir rendu son embonpoint, et il l'a seulement rendu bouffi. Tous ceux qui étaient riches, il y a 6 mois, sont à présent dans la pauvreté, et ceux qui n'avaient pas de pain regorgent de richesses. Jamais ces deux extrémités ne se sont touchées de si près. L'étranger a tourné l'État comme un fripier tourne un habit. Il fait paraître dessus ce qui était dessous, et ce qui était dessus, il le met à l'envers. Quelles fortunes inespérées, incroyables même à ceux qui les ont faites. Dieu ne tire pas plus rapidement les hommes du néant. Que de valets servis par leurs camarades, et peut-être demain par leur maître. Tout ceci produit souvent des choses bizarres. Les laquais, qui avaient fait fortune sous le règne passé, vantent aujourd'hui leur naissance. Ils rendent à ceux qui viennent de quitter leur livrée dans une certaine rue tout le mépris qu'on avait pour eux il y a 6 mois. Ils crient de toute leur force. La noblesse est ruinée. Quel désordre dans l'État! Quelle confusion dans les rangs! On ne voit que des inconnus faire fortune. Je te promets que ceux-ci prendront bien leur revanche sur ceux qui viendront après eux, et que dans 30 ans, ces gens de qualité feront bien du bruit. De Paris, le 1er de la lune de Zilkadé, 1720. Lettre 139. Rika au même. Voici un grand exemple de la tendresse conjugale. Non seulement dans une femme, mais dans une reine. La reine de Suède, voulant à toute force associer le prince, son époux, à la couronne, pour aplanir toutes les difficultés, a envoyé aux États une déclaration par laquelle elle se désiste de la régence en cas qu'il soit élu. Il y a 60 et quelques années qu'une autre reine, nommée Christine, abdiqua la couronne pour se donner tout entière à la philosophie. Je ne sais lequel de ces deux exemples nous devons admirer davantage. Quoique j'approuve assez que chacun se tienne ferme dans le poste où la nature l'a mis, et que je ne puisse louer la faiblesse de ceux qui, se trouvant au-dessous de leur état, le quitte comme par une espèce de désertion, je suis cependant frappé de la grandeur d'âme de ces deux princesses, et de voir l'esprit de l'une et le cœur de l'autre supérieurs à leur fortune. Christine a songé à connaître dans le temps que les autres ne songent qu'à jouir, et l'autre ne veut jouir que pour mettre tout son bonheur entre les mains de son auguste époux. De Paris, le 27 de la lune de Maharam, 1720. Lettre 140. Rika à Usbek, A. Le Parlement de Paris vient d'être relégué dans une petite ville qu'on appelle Pontoise. Le Conseil lui a envoyé, enregistré ou approuvé une déclaration qui le déshonore, et il l'a enregistrée d'une manière qui déshonore le Conseil. On menace d'un pareil traitement quelques parlements du royaume. Ces compagnies sont toujours odieuses. Elles n'approchent des rois que pour leur dire de tristes vérités. Et, pendant qu'une foule de courtisans leur représente sans cesse un peuple heureux sous leur gouvernement, elles viennent démentir la flatterie et apporter au pied du trône les gémissements et les larmes dont elles sont dépositaires. C'est un pesant fardeau, mon cher Usbek, que celui de la vérité, lorsqu'il faut la porter jusque au prince. Ils doivent bien penser que ceux qui s'y déterminent y sont contraints et qu'ils ne s'y résoudraient jamais à faire des démarches si tristes et si affligeantes pour ceux qui les font s'ils n'y étaient forcés par leurs devoirs, leur respect et même leur amour. De Paris, le 21 de la lune de Gemadi 1, 1720. Lettre 141. Rika au même. J'irai te voir sur la fin de la semaine. Que les jours couleront agréablement avec toi. Je fus présenté, il y a quelques jours, à une dame de la cour qui avait quelque envie de voir ma figure étrangère. Je la trouvais belle, digne des regards de notre monarque et d'un rang auguste dans le lieu sacré où son cœur repose. Elle me fit mille questions sur les mœurs des Persans et sur la manière de vivre des Persanes. Il me parut que la vie du sérail n'était pas de son goût et qu'elle trouvait de la répugnance à voir un homme partagé entre 10 ou 12 femmes. Elle ne put voir sans envie le bonheur de l'un et sans pitié la condition des autres. Comme elle aime la lecture, surtout celle des poètes et des romans, elle souhaita que je lui parlasse des nôtres. Ce que je lui en dis redoubla sa curiosité. Elle me pria de lui faire traduire un fragment de quelques-uns de ceux que j'ai apportés. Je le fis, et je lui envoyai, quelques jours après, un conte persan. Peut-être seras-tu bien aise de le voir travesti. Du temps de Cheikh Ali Khan, il y avait en Perse une femme nommée Zulema. Elle savait par cœur tout le Saint Alcoran. Il n'y avait point de dervis qui entendît mieux qu'elle les traditions des saints prophètes. Les docteurs arabes n'avaient rien de si mystérieux qu'elle n'en comprit tous les sens. Et elle joignait à tant de connaissances un certain caractère d'esprit enjoué qui laissait à peine deviner si elle voulait amuser ceux à qui elle parlait ou les instruire. Un jour qu'elle était avec ses compagnes dans une des salles du sérail, une d'elles lui demanda ce qu'elle pensait de l'autre vie, et si elle ajoutait foi à cette ancienne tradition de nos docteurs, que le paradis n'est fait que pour les hommes. « C'est le sentiment commun, » leur dit-elle. « Il n'y a rien que l'on ait fait pour dégrader notre sexe. Il y a même une nation répandue par toute la Perse, qu'on appelle la nation juive, qui soutient, par l'autorité de ses livres sacrés, que nous n'avons point d'âme. » Ces opinions si injurieuses n'ont d'autre origine que l'orgueil des hommes, qui veulent porter leur supériorité au-delà même de leur vie, et ne pensent pas que, dans le grand jour, toutes les créatures paraîtront devant Dieu comme le néant, sans qu'il y ait entre elles de prérogatives que celles que la vertu y aura mises. Dieu ne se bornera point dans ses récompenses. Et comme les hommes qui auront bien vécu et bien usé de l'empire qu'ils ont ici-bas sur nous seront dans un paradis plein de beautés célestes et ravissantes, et tel que, si un mortel les avait vus, ils se donneraient aussitôt la mort dans l'impatience d'en jouir. Aussi les femmes vertueuses iront dans un lieu de délices, où elles seront enivrées d'un torrent de volupté avec des hommes divins qui leur seront soumis. Chacune d'elles aura un sérail dans lequel ils seront enfermés, et des eunuques, encore plus fidèles que les nôtres, pour les garder. « J'ai lu, ajouta-t-elle, dans un livre arabe, qu'un homme, nommé Ibrahim, était d'une jalousie insupportable. Il avait 12 femmes extrêmement belles, qu'il traitait d'une manière très dure. Il ne se fiait plus à ses eunuques ni aux murs de son sérail. Il les tenait presque toujours sous la clé, enfermés dans leur chambre, sans qu'elles puissent se voir ni se parler, car il était même jaloux d'une amitié innocente. Toutes ses actions prenaient la teinture de sa brutalité naturelle. Jamais une douce parole ne sortit de sa bouche, et jamais il ne fit le moindre signe qui n'ajoutât quelque chose à la rigueur de leur esclavage. Un jour, qu'il les avait toutes assemblées dans une salle de son sérail, une d'entre elles, plus hardie que les autres, lui reprocha son mauvais naturel. quand on cherche si fort les moyens de se faire craindre, lui dit-elle, on trouve toujours auparavant ceux de se faire haïr. Nous sommes si malheureuses que nous ne pouvons nous empêcher de désirer un changement. D'autres, à ma place, souhaiteraient votre mort. Je ne souhaite que la mienne. Et ne pouvant espérer d'être séparée de vous que par là, il me sera encore bien doux d'en être séparée. » Ce discours, qui aurait dû le toucher, le fit entrer dans une furieuse colère. Il tira son poignard et le lui plongea dans le sein. « Mes chères compagnes, dit-elle d'une voix mourante, si le ciel a pitié de ma vertu, vous serez vengées. » À ces mots, elle quitta cette vie infortunée pour aller dans le séjour des délices, où les femmes qui ont bien vécu jouissent d'un bonheur qui se renouvelle toujours. D'abord, elle vit une prairie riante, dont la verdure était relevée par les peintures des fleurs les plus vives. Un ruisseau, dont les eaux étaient plus pures que le cristal, y faisait un nombre infini de détours. Elle entra ensuite dans des bocages charmants, dont le silence n'était interrompu que par le doux chant des oiseaux. De magnifiques jardins se présentèrent ensuite. La nature les avait ornés avec sa simplicité et toute sa magnificence. Elle trouva enfin un palais superbe, préparé pour elle et rempli d'hommes célestes destinés à ses plaisirs. Deux d'entre eux se présentèrent aussitôt pour la déshabiller. D'autres la mirent dans le bain et la parfumèrent des plus délicieuses essences. On lui donna ensuite des habits infiniment plus riches que les siens. Après quoi, on la mena dans une grande salle où elle trouva un feu fait avec des bois odoriférants et une table couverte des mets les plus exquis. Tout semblait concourir au ravissement de ses sens. Elle entendait, d'un côté, une musique d'autant plus divine qu'elle était plus tendre. De l'autre, elle ne voyait que des danses de ces hommes divins, uniquement occupés à lui plaire. Cependant, tant de plaisir ne devait servir qu'à la conduire insensiblement à des plaisirs plus grands. On la mena dans sa chambre, et, après l'avoir encore une fois déshabillée, on la porta dans un lit superbe, où deux hommes, d'une beauté charmante, la reçurent dans leurs bras. C'est pour lors qu'elle fut enivrée, et que ses ravissements passèrent même ses désirs. « Je suis tout hors de moi, leur disait-elle. Je croirais mourir si je n'étais sûre de mon immortalité. C'en est trop, laissez-moi. Je succombe sous la violence des plaisirs. Oui, vous rendez un peu le calme à mes sens. Je commence à respirer et à revenir à moi-même. D'où vient que l'on a ôté les flambeaux? Que ne puis-je à présent considérer votre beauté divine? Que ne puis-je voir? Mais pourquoi voir? Vous me faites rentrer dans mes premiers transports. Oh Dieu, que ces ténèbres sont aimables! Quoi? Je serai immortelle? Et immortelle avec vous? Je serai... Non, je vous demande grâce, car je vois bien que vous êtes gens à n'en demander jamais. » Après plusieurs commandements réitérés, elle fut obéie. Mais elle ne le fut que lorsqu'elle voulut l'être bien sérieusement. Elle se reposa languissamment et s'endormit dans leurs bras. Deux moments de sommeil réparèrent sa lassitude. Elle reçut deux baisers qui l'enflammèrent soudain et lui firent ouvrir les yeux. « Je suis inquiète, dit-elle. Je crains que vous ne m'aimiez plus. » C'était un doute dans lequel elle ne voulait pas rester longtemps. Aussi eut-elle avec eux tous les éclaircissements qu'elle pouvait désirer. « Je suis désabusée, s'écria-t-elle. Pardon, pardon, je suis sûre de vous. Vous ne me dites rien, mais vous prouvez mieux que tout ce que vous pourriez dire. Oui, oui, je vous le confesse, on n'a jamais tant aimé. Mais quoi? Vous vous disputez tous deux l'honneur de me persuader? Ah, si vous vous disputez, si vous joignez l'ambition au plaisir de ma défaite, je suis perdue. Vous serez tous deux vainqueurs, il n'y aura que moi de vaincu. Mais je vous vendrai bien cher la victoire. » Tout ceci ne fut interrompu que par le jour.
ses fidèles et aimables domestiques entrèrent dans sa chambre et firent lever ces deux jeunes hommes que deux vieillards ramenèrent dans les lieux où ils étaient gardés pour ses plaisirs. Elle se leva ensuite et parut d'abord à cette cour idolâtre dans les charmes d'un déshabillé simple, et ensuite couverte des plus somptueux ornements. Cette nuit l'avait embellie. Elle avait donné de la vie à son teint et de l'expression à ses grâces. Ce ne fut pendant tout le jour que danse, que concert, que festin, que jeu, que promenade, et l'on remarquait qu'Anaïs se dérobait de temps en temps et volait vers ses deux jeunes héros. Après quelques précieux instants d'entrevue, elle revenait vers la troupe qu'elle avait quittée, toujours avec un visage plus serein. Enfin, sur le soir, on la perdit tout à fait. Elle alla s'enfermer dans le sérail, où elle voulait, disait-elle, faire connaissance avec ses captives immortelles qui devaient à jamais vivre avec elle. Elle visita donc les appartements de ces lieux les plus reculés et les plus charmants, où elle compta 50 esclaves d'une beauté miraculeuse. Elle erra toute la nuit de chambre en chambre, recevant partout des hommages, toujours différents et toujours les mêmes. Voilà comment l'immortelle Anaïs passait sa vie, tantôt dans des plaisirs éclatants, tantôt dans des plaisirs solitaires, admirée d'une troupe brillante ou bien aimée d'un amant éperdu. Souvent elle quittait le palais enchanté pour aller dans une grotte champêtre. Les fleurs semblaient naître sous ses pas, et les jeux se présentaient en foule au-devant d'elle. Il y avait plus de 8 jours qu'elle était dans cette demeure heureuse, que toujours hors d'elle-même, elle n'avait pas fait une seule réflexion. Elle avait joui de son bonheur sans le connaître, et sans avoir eu un seul de ces moments tranquilles où l'âme se rend, pour ainsi dire, compte à elle-même et s'écoute dans le silence des passions. Les bienheureux ont des plaisirs si vifs qu'ils peuvent rarement jouir de cette liberté d'esprit. C'est pour cela qu'attachés invinciblement aux objets présents, ils perdent entièrement la mémoire des choses passées et n'ont plus aucun souci de ce qu'ils ont connu ou aimé dans l'autre vie. Mais Anaïs, dont l'esprit était vraiment philosophe, avait passé presque toute sa vie à méditer. Elle avait poussé ses réflexions beaucoup plus loin qu'on aurait dû l'attendre d'une femme laissée à elle-même. La retraite austère que son mari lui avait fait garder ne lui avait laissé que cet avantage. C'est cette force d'esprit qui lui avait fait mépriser la crainte dont ses compagnes étaient frappées, et la mort, qui devait être la fin de ses peines et le commencement de sa félicité. Ainsi, elle sortit peu à peu de l'ivresse des plaisirs et s'enferma seule dans un appartement de son palais. Elle se laissa aller à des réflexions bien douces sur sa condition passée et sur sa félicité présente. Elle ne put s'empêcher de s'attendrir sur le malheur de ses compagnes. On est sensible à des tourments que l'on a partagés. Anaïs ne se tint pas dans les simples bornes de la compassion. Plus tendre envers ses infortunés, elle se sentit portée à les secourir. Elle donna ordre à un de ces jeunes hommes qui était auprès d'elle de prendre la figure de son mari, d'aller dans son sérail, de s'en rendre maître, de l'en chasser et d'y rester à sa place jusqu'à ce qu'elle le rappelât. L'exécution fut prompte. Il fendit les airs, arriva à la porte du sérail d'Ibrahim, qui n'y était pas. Il frappe, tout lui est ouvert. Les eunuques tombent à ses pieds. Il vole vers les appartements où les femmes d'Ibrahim étaient enfermées. Il avait, en passant, pris les clés dans la poche de ce jaloux à qui il s'était rendu invisible. Il entre et les surprend d'abord par son air doux et affable. Et bientôt après, il les surprend davantage par ses empressements et par la rapidité de ses entreprises. Toutes eut leur part de l'étonnement, et elle l'aurait pris pour un songe, s'il y eut moins de réalité. Pendant que ces nouvelles scènes se jouent dans le sérail, Ibrahim heurte, se nomme, tempête, écrit.
Après avoir essuyé bien des difficultés, il entre et jette les eunuques dans un désordre extrême. Il marche à grands pas, mais il recule en arrière et tombe comme des nus quand il voit le faux Ibrahim, sa véritable image, dans toutes les libertés d'un maître. Il crie au secours, il veut que les eunuques lui aident à tuer cet imposteur. Mais il n'est pas obéi. Il n'a plus qu'une bien faible ressource, celle de s'en rapporter au jugement de ses femmes. Dans une heure, le faux Ibrahim avait séduit tous ses juges. L'autre est chassé et traîné indignement hors du sérail. Et il aurait reçu la mort mille fois si son rival n'avait ordonné qu'on lui sauvât la vie. Enfin, le nouvel Ibrahim, resté maître du champ de bataille, se montra de plus en plus digne d'un tel choix et se signala par des miracles jusqu'alors inconnus. « Vous ne ressemblez pas à Ibrahim, » disaient ses femmes. « Dites plutôt que cet imposteur ne me ressemble pas, » disait le triomphant Ibrahim. « Comment faut-il faire pour être votre époux si ce que je fais ne suffit pas ?»« Ah, nous n'avons garde de douter, » dirent les femmes. « Si vous n'êtes pas Ibrahim, il nous suffit que vous ayez si bien mérité de l'être. » « Vous êtes plus Ibrahim en un jour qu'il ne l'a été dans le cours de 10 années. »« Vous me promettez donc, » reprit-il, « que vous vous déclarerez en ma faveur contre cet imposteur. »« N'en doutez pas, » dirent-elles d'une commune voix. « Nous vous jurons une fidélité éternelle. Nous n'avons été que trop longtemps abusés. Le traître ne soupçonnait point notre vertu, il ne soupçonnait que sa faiblesse. » Nous voyons bien que les hommes ne sont pas faits comme lui. C'est à vous sans doute qu'il ressemble. Si vous saviez combien vous nous le faites haïr. Ah, je vous donnerai souvent de nouveaux sujets de haine, reprit le faux Ibrahim. Vous ne connaissez point encore tout le tort qu'il vous a fait. Nous jugeons de son injustice par la grandeur de votre vengeance, reprirent-elles. « Oui, vous avez raison, » dit l'homme divin. « J'ai mesuré l'expiation au crime. Je suis bien aise que vous soyez contente de ma manière de punir. »« Mais, » dirent ces femmes, « si cet imposteur revient, que ferons-nous ?»«
Il lui serait, je crois, difficile de vous tromper, » répondit-il. « Dans la place que j'occupe auprès de vous, on ne se soutient guère par la ruse. » Et d'ailleurs, je l'enverrai si loin que vous n'entendrez plus parler de lui. Pour lors, je prendrai sur moi le soin de votre bonheur. Je ne serai point jaloux. Je saurai m'assurer de vous sans vous gêner. J'ai assez bonne opinion de mon mérite pour croire que vous me serez fidèle. Si vous n'étiez pas vertueuse avec moi, avec qui le seriez-vous ?
Cette conversation dura longtemps entre lui et ses femmes, qui, plus frappés de la différence des deux Ibrahim que de leur ressemblance, ne songeaient pas même à se faire éclaircir de tant de merveilles. Enfin, le mari désespéré revint encore les troubler. Il trouva toute sa maison dans la joie et ses femmes plus incrédules que jamais. La place n'était pas tenable pour un jaloux. Il sortit furieux et un instant après, le faux Ibrahim le suivit, le prit, le transporta dans les airs et le laissa à 2000 lieues de là. Oh Dieu, dans quelle désolation se trouvèrent ces femmes dans l'absence de leur cher Ibrahim! Déjà leurs eunuques avaient repris leur sévérité naturelle. Toute la maison était en larmes. Elles s'imaginaient quelquefois que tout ce qui leur était arrivé n'était qu'un songe. Elles se regardaient toutes les unes les autres, et se rappelait les moindres circonstances de ces étranges aventures. Enfin, le céleste Ibrahim revint, toujours plus aimable. Il leur parut que son voyage n'avait pas été pénible. Le nouveau maître prit une conduite si opposée à celle de l'autre qu'elle surprit tous les voisins. Il congédia les eunuques, rendit sa maison accessible à tout le monde. Il ne voulut pas même souffrir que ses femmes se voilassent. C'était une chose singulière de les voir dans les festins parmi les hommes, aussi libres qu'eux.
Ibrahim crut avec raison que les coutumes du pays n'étaient pas faites pour des citoyens comme lui. Cependant, il ne se refusait aucune dépense. Il dissipa avec une immense profusion les biens du jaloux, qui, de retour 3 ans après des pays lointains où il avait été transporté, ne trouva plus que ses femmes et 36 enfants. De Paris, le 26 de la lune de Gemadi, 1720. Lettre 142. Rika à Usbek. A. Voici une lettre que je reçus hier d'un savant. Elle te paraîtra singulière. Monsieur, il y a 6 mois que j'ai recueilli la succession d'un oncle très riche qui m'a laissé 500 000 livres et une maison superbement meublée. Il y a plaisir d'avoir du bien lorsqu'on l'en sait faire un bon usage. Je n'ai point d'ambition, ni de goût pour les plaisirs. Je suis presque toujours enfermé dans un cabinet où je mène la vie d'un savant. C'est dans ce lieu que l'on trouve un curieux amateur de la vénérable antiquité. Lorsque mon oncle eut fermé les yeux, j'aurais fort souhaité de le faire enterrer avec les cérémonies observées par les anciens Grecs et Romains, mais je n'avais pour lors ni lacrymatoire, ni urne, ni lampes antiques. Mais, depuis, je me suis bien pourvu de ces précieuses raretés. Il y a quelques jours que je vendis ma vaisselle d'argent pour acheter une lampe de terre qui avait servi à un philosophe stoïcien. Je me suis défait de toutes les glaces dont mon oncle avait couvert presque tous les murs de ses appartements pour avoir un petit miroir un peu fêlé qui fut autrefois à l'usage de Virgile. Je suis charmé d'y voir ma figure représentée au lieu de celle du cygne de Mantoue. Ce n'est pas tout. J'ai acheté 100 louis d'or, 5 ou 6 pièces d'une monnaie de cuivre qui avait cours il y a 2000 ans. Je ne sache pas avoir à présent dans ma maison un seul meuble qui n'ait été fait avant la décadence de l'Empire. J'ai un petit cabinet de manuscrits fort précieux et fort cher. Quoique je me tue la vue à les lire, j'aime beaucoup mieux m'en servir que des exemplaires imprimés, qui ne sont pas si corrects, et que tout le monde a entre les mains. Quoique je ne sorte presque jamais, je ne laisse pas d'avoir une passion démesurée de connaître tous les anciens chemins qui étaient du temps de Rome. Il y en a un qui est près de chez moi, qu'un proconsul des Gaules fit faire il y a environ 1200 ans. Lorsque je vais à ma maison de campagne, je ne manque jamais d'y passer, quoiqu'il soit très incommode et qu'il m'allonge de plus d'une lieue. Mais ce qui me fait enrager, c'est qu'on y a mis des poteaux de bois de distance en distance pour marquer l'éloignement des villes voisines. Je suis désespéré de voir ces misérables indices au lieu des colonnes militaires qui y étaient autrefois. Je ne doute pas que je ne les fasse rétablir par mes héritiers et que je ne les engage à cette dépense par mon testament. Si vous avez, monsieur, quelques manuscrits persans, vous me ferez plaisir de m'en accommoder. Je vous le paierai tout ce que vous voudrez, et je vous donnerai par-dessus le marché quelques ouvrages de ma façon, par lesquels vous verrez que je ne suis point un membre inutile de la République des Lettres. Vous y remarquerez, entre autres, une dissertation où je fais voir que la couronne dont on se servait autrefois dans les triomphes était de chêne et non pas de laurier. Vous en admirerez une autre où je prouve, par de doctes conjectures tirées des plus graves auteurs grecs, que Cambyse fut blessé à la jambe gauche et non pas à la droite. Une autre où je démontre qu'un petit front était une beauté très recherchée par les Romains. Je vous enverrai encore un volume in quarto, en forme d'explication d'un vers du 6e livre de l'Énéide de Virgile. Vous ne recevrez tout ceci que dans quelques jours, et quant à présent, je me contente de vous envoyer ce fragment d'un ancien mythologiste grec qui n'avait point paru jusqu'ici et que j'ai découvert dans la poussière d'une bibliothèque. Je vous quitte pour une affaire importante que j'ai sur les bras. Il s'agit de restituer un beau passage de Pline le naturaliste que les copistes du 5e siècle ont étrangement défiguré. Je suis, etc.
fragment d'un ancien mythologiste. Dans une île près des Orcades, il naquit un enfant qui avait pour père Éole, dieu des vents, et pour mère une nymphe de Calédonie. On dit de lui qu'il apprit tout seul à compter avec ses doigts, et que dès l'âge de 4 ans, il distinguait si parfaitement les métaux que sa mère, ayant voulu lui donner une bague de laiton au lieu d'une d'or, il reconnut la tromperie et la jeta par terre. Dès qu'il fut grand, son père lui apprit le secret d'enfermer les vents dans des outres, qu'il vendait ensuite à tous les voyageurs. Mais comme la marchandise n'était pas fort prisée dans son pays, il le quitta et se mit à courir le monde en compagnie de l'aveugle dieu du hasard. Il apprit dans ses voyages que dans la Bétique, l'or reluisait de toutes parts. Cela fit qu'il y précipita ses pas. Il y fut fort mal reçu de Saturne, qui régnait pour l'or. Mais ce dieu ayant quitté la terre, il s'avisa d'aller dans tous les carrefours où il criait sans cesse d'une voix rauque « Peuple de Bétique, vous croyez être riche parce que vous avez de l'or et de l'argent. Votre erreur me fait pitié. Croyez-moi, quittez le pays des vils métaux. Venez dans l'empire de l'imagination et je vous promets des richesses qui vous étonneront vous-même. » Aussitôt, il ouvrit une grande partie des outres qu'il avait apportées et il distribua de sa marchandise à qui en voulut. Le lendemain, il revint dans les mêmes carrefours et il s'écria « Peuple de Bétique, voulez-vous être riche? Imaginez-vous que je le suis beaucoup et que vous l'êtes beaucoup aussi. Mettez-vous tous les matins dans l'esprit que votre fortune a doublé pendant la nuit. Levez-vous ensuite et, si vous avez des créanciers, allez les payer de ce que vous aurez imaginé et dites-leur d'imaginer à leur tour. » Il reparut quelques jours après et il parla ainsi. « Peuple de Bétique, je vois bien que votre imagination n'est pas si vive que les premiers jours. Laissez-vous conduire à la mienne. Je mettrai tous les matins devant vos yeux un écriteau qui sera pour vous la source des richesses. Vous n'y verrez que 4 paroles, mais elles seront bien significatives, car elles régleront la dot de vos femmes, la légitime de vos enfants, le nombre de vos domestiques. Et quant à vous, dit-il à ceux de la troupe qui étaient le plus près de lui, quant à vous, mes chers enfants, je puis vous appeler de ce nom, car vous avez reçu de moi une seconde naissance. Mon écriteau décidera de la magnificence de vos équipages, de la somptuosité de vos festins, du nombre et de la pension de vos maîtresses. » À quelques jours de là, il arriva dans le carrefour, tout essoufflé, et transporté de colère, il s'écria « Peuple de Bétique, je vous avais conseillé d'imaginer, et je vois que vous ne le faites pas. Eh bien, à présent, je vous l'ordonne. » Là-dessus, il les quitta brusquement. Mais la réflexion le rappela sur ses pas. « J'apprends que quelques-uns de vous sont assez détestables pour conserver leur or et leur argent. Encore passe pour l'argent, mais pour de l'or, pour de l'or. Ah, cela me met dans une indignation. Je jure, par mes outres sacrés, que s'ils ne viennent pas me l'apporter, je les punirai sévèrement. » Puis il ajouta d'un air tout à fait persuasif. « Croyez-vous que ce soit pour garder ces misérables métaux que je vous les demande? Une marque de ma candeur, c'est que lorsque vous me les apportâtes il y a quelques jours, je vous en rendis sur le champ la moitié. » Le lendemain, on l'aperçut de loin, et on le vit s'insinuer avec une voix douce et flatteuse. « Peuple de Bétique, j'apprends que vous avez une partie de vos trésors dans les pays étrangers. Je vous prie, faites-les-moi venir, vous me ferez plaisir, et je vous en aurai une reconnaissance éternelle. » Le fils d'Éole parlait à des gens qui n'avaient pas grande envie de rire. Ils ne purent pourtant s'en empêcher, ce qui fit qu'il s'en retourna bien confus. Mais, reprenant courage, il hasarda encore une petite prière. « Je sais que vous avez des pierres précieuses. Au nom de Jupiter, défaites-vous-en. Rien ne vous appauvrit comme ces sortes de choses. Défaites-vous-en, vous dis-je. Si vous ne le pouvez pas par vous-même,
je vous donnerai des hommes d'affaires excellents. Que de richesses vont couler chez vous si vous faites ce que je vous conseille. Oui, je vous promets tout ce qu'il y a de plus pur dans mes outres. »
Enfin, il monta sur un tréteau, et prenant une voix assurée, il dit
« Peuple de Bétique, j'ai comparé l'heureux état dans lequel vous êtes avec celui où je vous trouvais lorsque j'arrivais ici. Je vous vois le plus riche peuple de la terre. Mais pour achever votre fortune, souffrez que je vous ôte la moitié de vos biens. »
À ces mots, d'une aile légère, le fils d'Éole disparut et laissa ses auditeurs dans une consternation inexprimable. Ce qui fit qu'il revint le lendemain et parla ainsi.
« Je m'aperçus hier que mon discours vous déplut extrêmement. Eh bien, prenez que je ne vous ai rien dit. Il est vrai, la moitié, c'est trop. Il n'y a qu'à prendre d'autres expédients pour arriver au but que je me suis proposé. Assemblons nos richesses dans un même endroit, nous le pouvons facilement, car elles ne tiennent pas un gros volume. »
Aussitôt, il en disparut les trois quarts. De Paris, le 9 de la lune de Chaban, 1720. Lettre 143. Rica à Nathanaël Lévy, médecin juif à Livourne.
Tu me demandes ce que je pense de la vertu des amulettes et de la puissance des talismans. Pourquoi t'adresses-tu à moi? Tu es juif et je suis mahométan, c'est-à-dire que nous sommes tous deux bien crédules. Je porte toujours sur moi plus de 2000 passages du Saint Alcoran. J'attache à mes bras un petit paquet où sont écrits les noms de plus de 200 dervis. Ceux d'Ali, de Fatmé et de tous les purs sont cachés en plus de 20 endroits de mes habits. Cependant, je ne désapprouve point ceux qui rejettent cette vertu que l'on attribue à de certaines paroles. Il nous est bien plus difficile de répondre à leurs raisonnements qu'à eux de répondre à nos expériences. Je porte tous ces chiffons sacrés par une longue habitude pour me conformer à une pratique universelle. Je crois que, s'ils n'ont pas plus de vertu que les bagues et les autres ornements dont on se pare, ils n'en ont pas moins. Mais toi, tu mets toute ta confiance sur quelques lettres mystérieuses, et sans cette sauvegarde, tu serais dans un effroi continuel. Les hommes sont bien malheureux. Ils flottent sans cesse entre de fausses espérances et des craintes ridicules. Et au lieu de s'appuyer sur la raison, ils se font des monstres qui les intimident ou des fantômes qui les séduisent. Quel effet veux-tu que produise l'arrangement de certaines lettres? Quel effet veux-tu que leur dérangement puisse troubler? Quelle relation ont-elles avec les vents pour apaiser les tempêtes, avec la poudre à canon pour en vaincre les forts, avec ce que les médecins appellent l'humeur pécante et la cause morbifique des maladies pour les guérir? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui fatiguent leur raison pour lui faire rapporter de certains événements à des vertus occultes n'ont pas un moindre effort à faire pour s'empêcher d'en voir la véritable cause. Tu me diras que de certains prestiges ont fait gagner une bataille. Et moi, je te dirais qu'il faut que tu t'aveugles pour ne pas trouver dans la situation du terrain, dans le nombre ou dans le courage des soldats, dans l'expérience des capitaines, des causes suffisantes pour produire cet effet dont tu veux ignorer la cause. Je te passe pour un moment qu'il y ait des prestiges. Passe-moi à ton tour pour un moment qu'il n'y en ait point, car cela n'est pas impossible. Ce que tu m'accordes n'empêche pas que les deux armées ne puissent se battre. Veux-tu que dans ce cas-là, aucune des deux ne puisse remporter la victoire? Crois-tu que leur sort restera incertain jusqu'à ce qu'une puissance invisible vienne le déterminer? Que tous les coups seront perdus, toute la prudence vaine et tout le courage inutile? Penses-tu que la mort, dans ces occasions, rendue présente de mille manières, ne puisse pas produire dans les esprits ces terreurs paniques que tu as tant de peine à expliquer? Veux-tu que, dans une armée de 100 000 hommes, il ne puisse pas y avoir un seul homme timide? Crois-tu que le découragement de celui-ci ne puisse pas produire le découragement d'un autre? Que le second, qui quitte un troisième, ne lui fasse pas bientôt abandonner un quatrième? Et il n'en faut pas davantage pour que le désespoir de vaincre saisisse soudain toute une armée et la saisisse d'autant plus facilement qu'elle se trouve plus nombreuse. Tout le monde sait et tout le monde sent que les hommes, comme toutes les créatures qui tendent à conserver leur être, aiment passionnément la vie. On sait cela en général, et on cherche pourquoi, dans une certaine occasion particulière, ils ont craint de la perdre. Quoique les livres sacrés de toutes les nations soient remplis de ces terreurs paniques ou surnaturelles, je n'imagine rien de si frivole, parce que, pour s'assurer qu'un effet qui peut être produit par 100 000 causes naturelles, est surnaturel, il faut avoir auparavant examiné si aucune de ces causes n'a agi, ce qui est impossible. Je ne t'en dirai pas davantage, Nathanaël. Il me semble que la manière ne mérite pas d'être si sérieusement traitée. De Paris, le 20 de la lune de Chaban, 1720. Post-scriptum. Comme je finissais, j'ai entendu crier dans la rue une lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris. Car ici, toutes les bagatelles s'impriment, se publient et s'achètent. J'ai cru que je ferais bien de te l'envoyer, parce qu'elle a du rapport à notre sujet. Il y a bien des choses que je n'entends pas, mais toi qui es médecin, tu dois entendre le langage de tes confrères. Lettre d'un médecin de province à un médecin de Paris. Il y avait dans notre ville un malade qui ne dormait point depuis 35 jours. Son médecin lui ordonna l'opium, mais il ne pouvait se résoudre à le prendre, et il avait la coupe à la main qu'il était plus indéterminé que jamais. Enfin, il dit à son médecin, « Monsieur, je vous demande seulement quartier jusqu'à demain. Je connais un homme qui n'exerce pas la médecine, mais qui a chez lui un nombre incalculable de remèdes contre l'insomnie. Souffrez que je l'envoie guérir, et si je ne dors pas cette nuit, je vous promets que je reviendrai à vous. » Le médecin congédié, le malade fit fermer les rideaux et dit à un petit laquais, « Tiens, va-t'en chez monsieur Anis et dis-lui qu'il vienne me parler. » Monsieur Anis arrive. « Mon cher monsieur Anis, je me meurs, je ne puis dormir. N'auriez-vous point dans votre boutique la C du G ou bien quelques livres de dévotion composés par un RPJ que vous n'avez pas pu vendre? Car souvent les remèdes les plus gardés sont les meilleurs. » « Monsieur, dit le libraire, j'ai chez moi la Cour sainte du père Caussin en 6 volumes, à votre service. Je vais vous l'envoyer. Je souhaite que vous vous en trouviez bien. Si vous voulez les œuvres du révérend père Rodriguez, jésuite espagnol, ne vous en faites faute. Mais croyez-moi, tenons-nous-en au père Caussin. J'espère, avec l'aide de Dieu, qu'une période du père Caussin vous fera autant d'effet qu'un feuillet tout entier de la C du G. » Là-dessus, M. Anis sortit et courut chercher le remède à sa boutique. La cour sainte arrive. On en secoue la poudre. Le fils du malade, jeune écolier, commence à la lire. Il en sentit le premier effet. À la seconde page, il ne prononçait plus que d'une voix mal articulée, et déjà toute la compagnie se sentait affaiblie. Un instant après, tout ronfla, excepté le malade, qui, après avoir été longtemps éprouvé, s'assoupit à la fin. Le médecin arrive de grand matin. « Eh bien, a-t-on pris mon opium ?» On ne lui répond rien. La femme, la fille, le petit garçon, tous transportés de joie, lui montrent le père Caussin. Il demande ce que c'est. On lui dit « Vive le père Caussin! Il faut l'envoyer relier !» Qui l'eût dit? Qui l'eût cru? C'est un miracle! Tenez, monsieur, voyez donc le père Caussin. C'est ce volume-là qui a fait dormir mon père. » Et là-dessus, on lui expliqua la chose comme elle s'était passée. Le médecin était un homme subtil, rempli des mystères de la cabale et de la puissance des paroles et des esprits. Cela le frappa. et après plusieurs réflexions, il résolut de changer absolument sa pratique.
« Voilà un fait bien singulier, » dit-il.
« Je tiens une expérience. Il faut la pousser plus loin.
Et pourquoi un esprit ne pourrait-il pas transmettre à son ouvrage les mêmes qualités qu'il a lui-même? Ne le voyons-nous pas tous les jours? Au moins cela vaut-il bien la peine de l'essayer. Je suis là, les apothicaires. Leurs sirops, leurs juleps et toutes les drogues galéniques ruinent les malades et leur santé. Changeons de méthode. Éprouvons la vertu des esprits. »
Sur cette idée, il dressa une nouvelle pharmacie, comme vous allez voir par la description que je vous vais faire des principaux remèdes qu'il mit en pratique.
Tisane purgative. Prenez 3 feuilles de la logique d'Aristote en grec, 2 feuilles d'un traité de théologie scolastique le plus aigu, comme par exemple du subtil Scott, 4 de Paracelse, 1 d'Avicenne, 6 d'Averroès, 3 de Porphyre, autant de Plotin, autant de Jamblique. Faites infuser le tout pendant 24 heures et prenez en 4 prises par jour.
Purgatif plus violent. Prenez 10 A du C concernant la B et la C, des I, faites-les distiller au bain-marie. Mortifiez une goutte de l'humeur âcre et piquante qui en viendra dans un verre d'eau commune, avalez le tout avec confiance.
Vomitif. Prenez 6 harangues, une 12aine d'oraisons funèbres, indifféremment, prenant garde pourtant de ne point se servir de celle de Monsieur de N, un recueil de nouveaux opéras, 50 romans, 30 mémoires nouveaux, mettez le tout dans un matras, laissez-le en digestion pendant 2 jours, puis faites-le distiller au feu de sable. Et si tout cela ne suffit pas, autre plus puissant. Prenez une feuille de papier marbré qui est servie à couvrir un recueil des pièces des J.F. Faites-la infuser l'espace de 3 minutes. Faites chauffer une cuillerée de cette infusion et avalez.
Remède très simple pour guérir de l'asthme.
Lisez tous les ouvrages du révérend père Mimbourg, ci-devant jésuite. Prenons garde de ne vous arrêter qu'à la fin de chaque période, et vous sentirez la faculté de respirer vous revenir peu à peu, sans qu'il soit besoin de réitérer le remède.
Pour préserver de la gale, gratelle, teigne, farcin des chevaux, prenez 3 catégories d'Aristote, 2 degrés métaphysiques, 1 distinction, 6 vers de Chapelain, 1 phrase tirée des lettres de Monsieur l'abbé de Saint-Cyran. Écrivez le tout sur un morceau de papier que vous plierez, attacherez à un ruban et porterez au col.
Miraculum chemicum de violenta fermentatione, cum fumo igne et flamma. Miche quest nelianam infusionem, cum infusions l'alemaniana. Fiat fermentatio cum magnavi, in petu et tonitru. Acidis pugnantibus et in vicem penetrantibus alcalines sales. Fiat evaporatio ardentium spirituum, pone liquorem fermentatum in alambico. Nil inde extraes et nil invenies, nisi caput mortuum.
Lenitivum. Recipe molinae anodini cartas duas. Escobatis relaxativi pagina sex. Vasci emolientis folium unum. Infonde in aquae communis. Lib egis. Ad consumptionem dimidiae partis colantur et exprimatur. E in expression dissolve boni detercivi et tamburini abluentis folia egis.
Fiat clister. In chlorosim, quam vulgus pallidos colores. Aut febrim amatoriam appellat. Recipe a retini figuras quatuor, er tomae sanci de matrimonio folia igi. Infundantur in aquae communis libras quinque. Fiat ptisana aperiens.
Voilà les drogues que notre médecin mit en pratique avec un succès inimaginable. Il ne voulait pas, disait-il, pour ne pas ruiner ses malades, employer des remèdes rares et qui ne se trouvent presque point. Comme par exemple une épître dédicatoire qui n'ait fait bâiller personne, une préface trop courte, un mandement fait par un évêque, et l'ouvrage d'un janséniste mérité par un janséniste ou bien admiré par un jésuite. Il disait que ces sortes de remèdes ne sont propres qu'à entretenir la charlatanerie, contre laquelle il avait une antipathie insurmontable.